Alors, je vous demanderai de prendre place comme Mathieu vous l'a demandé et aussi de tourner dans vos Bibles, dans Jean, au chapitre 2. Et ce matin, on va regarder de plus près les versets 18 à 25. Mais auparavant, j'aimerais ça juste qu'on puisse se replacer dans le contexte de l'Évangile de Jean, au chapitre 2. On a vu en première partie les noces de Cana, le premier miracle du Seigneur Jésus, où il a transformé justement l'eau en vin. Et ensuite de cela, on peut lire au verset 12 qu'il est descendu vers... Il est descendu vers Capharnaüm et il est resté quelques jours. Il y avait sa mère, ses frères, ses sœurs, évidemment, des disciples. Et ensuite de cela, ils sont repartis immédiatement pour Jérusalem parce qu'il y avait la Pâque juive. Et là, quand Jésus est arrivé là, il a vu qu'au temple... il y avait des gens qui vendaient des animaux et qui, ensuite de cela, ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait aussi des changeurs de change, ceux qui échangent la monnaie, parce que ces gens-là venaient de d'autres pays. Et le currency, autrement dit, n'était pas le même à Jérusalem. Quand on lit ça juste comme ça, on se dit, bien, pourquoi? Il n'y a rien de grave là-dedans à vendre des animaux puis à changer le change. Mais ce qu'ils faisaient, ces Juifs-là, c'est qu'ils profitaient justement de ces gens-là, ces pèlerins-là, qui venaient à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Et évidemment, il y avait offrande de sacrifice et il fallait acheter des animaux. Et au lieu de les transporter de chez eux à Jérusalem, ce qui faisait une longue route, et beaucoup de problèmes, on décidait de les acheter là-bas. Et là, on les vendait à un prix exorbitant, un prix voleur. Et en plus de ça, ceux qui changeaient le change, bien, ils donnaient pas assez pour qu'est-ce que c'est que l'argent valait. Donc, c'était des gens trompeurs, des voleurs, autrement dit. Et là, Jésus se fabrique un fouet et il chasse littéralement ces gens-là du temple avec les animaux, les vendeurs de pigeons et tout cela. Et là, il dit au verset 16, « Ôtez, hein, cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de voleurs. » Parce que ces gens-là étaient des voleurs et ils étaient dans la maison de Dieu. Et là, c'est... Au verset 17, c'est-tu ça où je suis rendu là? Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Et je ne sais pas si vous avez déjà cherché à interpréter ça, mais ça veut dire que ces Juifs-là, hypocrites, rendaient une fausse adoration à Dieu dans la maison de Dieu. Lorsqu'ils venaient adorer Dieu, leur zèle était beau, c'était beau à voir, mais le Seigneur a dit, « Ton zèle me dévore. » Et c'est ça qui fait en sorte qu'on a terminé là la dernière fois. Et on a une image un peu de qu'est-ce que c'est que ça représentait, le temple, l'adoration, qu'est-ce que ces dirigeants religieux-là avaient comme intérêt. Et je vais vous dire une chose, c'est pas différent aujourd'hui. Dans plusieurs églises, c'est l'argent, la beauté extrême, les dépenses extrêmes sur des choses qui n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu leur dit, « Ton zèle me dévore. » Est-ce que ce matin, je commence par une question bien peut-être difficile, Est-ce que ton zèle pour le Seigneur est un zèle qui est agréable à Dieu ou un zèle qui le dévore? Une grande question à se poser. Est-ce qu'on est fidèle? Et aujourd'hui, on continue dans ce passage-là, au chapitre 2, et au verset 18, disons que dans le contexte qu'on peut le dire, du verset 18 au verset 22, on peut voir que Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Et encore une fois, Jésus, ce qu'il fait ici, c'est qu'il va manifester sa divinité. Alors, c'est la deuxième partie du message de quelques semaines passées. Et on va juste se courber pour remettre ce temps dans les mains de notre grand Dieu. Papa éternel, nous sommes rassemblés ce matin en Église. Et malgré le peu que nous sommes, Seigneur Dieu, ton Église, elle est partout à travers le monde. Et ceux qui sont en vacances, ceux qui sont en répit, ceux qui profitent de cette grande fin de semaine le sont aussi. Ils font partie de toi, Seigneur Dieu, et nous voulons les joindre à nous, afin que nous puissions, Seigneur, ce matin, élever ton grand nom, comme on l'a fait avec cette belle louange tantôt, où, Seigneur, nous avons chanté, nous avons crié, nous avons dit « Gloire à ton Saint-Nom ». Maintenant, Père, c'est le temps de s'asseoir et d'écouter, Seigneur, ce que tu as à nous dire. Par la voix, les paroles de ton serviteur, Seigneur Dieu, qui doit être caché derrière toi. Et Père, ce matin, on veut encore une fois voir comment Jésus, ton Fils bien-aimé, a manifesté, Seigneur Dieu, sa divinité tout au long, Seigneur Dieu, de sa vie terrestre. Et malgré cela, plusieurs ne l'ont pas reconnu. Alors, Père, bénis ce temps, ouvre nos cœurs et qu'on puisse, Seigneur Dieu, être attentif au pied de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Les Juifs, suite à ce que Jésus leur répond, leur a dit au verset 16, ils prennent la parole, puis un peu d'une façon arrogante, là, disent au Seigneur, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Autrement dit, tu viens de semer, je vais dire le mot bordel, mais c'est dans la place, tu as tout renversé les tables, tu as chassé les animaux. De quelle autorité tu fais ça? Et compte tenu que c'est seulement Dieu qui fait les miracles, quel miracle vas-tu nous montrer pour agir de la sorte? Et ces Juifs-là, ces Juifs hypocrites-là, semblaient toujours vouloir chercher un signe, hein? Un signe miraculeux. Il y avait ça comme raisonnement. Si tu accomplis pour nous un miracle exceptionnel, alors on va croire. Fais-nous un miracle. Fais quelque chose d'extraordinaire, de miraculeux. Puis là, on va croire en toi. Vous savez que le Seigneur Jésus avait quand même accompli un miracle à Cana, puis ça a dû certainement s'être dit, répété. Et durant toute sa vie terrestre, le Seigneur, des 3 ans de son ministère d'ailleurs, il a fait plusieurs miracles dans la présence des Juifs. Mais leur cœur, malheureusement, ne s'ouvrit pas à l'Évangile. Il y avait un cœur dur, fermé. Et au verset 18, on peut voir qu'ils n'ont pas reconnu en Jésus l'autorité. L'autorité qu'il avait de mettre ces marchands-là hors du temple. Je ne sais pas comment vous réagiriez, comment je réagirais, mais souvent on a plus tendance à se mêler de ces affaires. On les laisse les faire, on passe à côté, puis la première chose qu'on sait, bien, on s'est tourné le dos, puis bien, on est parti. Mais Jésus ne pouvait pas faire ça. Jésus a vu ce qui se passait dans le temple, et dans ce temps-là, il faut le dire, l'Esprit Saint n'est pas encore descendu sur des personnes. Alors, le temple représente la maison de Dieu, Et là, de quelle autorité il a fait ça? Mais ce qu'ils font, c'est horrible. Ils exigent que Jésus accomplisse un autre miracle pour justement confirmer que Jésus lui-même est le Messie. Fais un miracle, on va te croire. Et je me demande parfois, quand je lis ce texte-là, si j'aurais agi de la même façon que ces Juifs-là. Vous savez, il n'y a rien de mal à se poser des questions. Par exemple, comment grande est ma foi lorsque je passe à travers une épreuve? Ai-je plus tendance à me décourager, à lever le poing contre Dieu, à prendre une attitude piteuse devant les autres lorsque Dieu se manifeste pas? Seigneur, viens, j'ai un problème. Viens m'aider. J'ai besoin tout de suite. Pas de réponse. Je manque de foi quand j'agis comme ça. Ou bien, au contraire, je crois que Dieu va intervenir, mais en son temps. Je vais prendre du temps. On doit prendre du temps pour réfléchir sur notre comportement devant Dieu. Et surtout concernant notre foi. Hein, Seigneur, il dit, si vous aviez la foi grande comme un grain de sénévé. C'est pas gros, ça, c'est la plus petite semence qui existe. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci dans Hébreux 11, verset 1, si vous voulez tourner. On n'a pas de PowerPoint, là, mais je vais essayer de... Des fois, je suis indécis, de peut-être vous inciter plus à chercher dans vos Bibles de cette façon-là. Vous allez pouvoir vous promener dedans agréablement. Hébreux 11, verset 1. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous donner une définition de ce qu'est la foi. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère, puis une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Frères et sœurs, on le voit tous, comme enfants de Dieu, s'appuyer sur cette parole qui est certaine. D'ailleurs, au chapitre 11, l'auteur va donner une description des héros de la foi. Ce que ces hommes-là, ce que ces femmes-là ont fait, justement. Comment grande était leur foi. Et on n'a qu'à penser à Abraham. Parti de son pays, je vais dire comme un... J'étais au camp des Boulots, ça fait longtemps de ça, puis il y avait l'ancien directeur de l'Association des Églises Baptistes, Dr. Roy Lawson, je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. Et il nous donnait une fin de semaine, une conférence pour les hommes. Et il parlait ainsi d'Abraham. Il dit, le gros semi-trailer a reculé devant sa porte. Ils ont loadé le truck. Puis on dit à Abraham, où est-ce qu'on s'en va? Abraham dit, je ne sais pas. Imaginez-vous. Et là, ils sont partis, évidemment. Puis là où est-ce que Dieu vraiment les a dirigés. Mais c'était un homme très comique, comme il pouvait nous faire pleurer aussi. Donc, pensons à ce passage-là. La foi, c'est une ferme assurance. Je crois fermement dans les choses que j'espère. Je crois que je vais aller au ciel. Je crois que Dieu va intervenir. Je crois. Et dans ma vie, cette foi-là, c'est une démonstration des choses qu'on ne peut pas voir. Vous savez, on a parlé de trois baptêmes tantôt. Puis j'inclus Joël là-dedans parce que Joël s'est fait baptiser pour ça pas longtemps. Trois miracles qu'on ne pouvait pas voir avant dans nos yeux lorsque la transformation s'est faite. Mais c'est arrivé. Et là, on va voir quatre vies changer. Changer parce qu'ils vont devenir de plus en plus des hommes et des femmes de Dieu. Et c'est tout un miracle. Ça, là, si vous voulez en voir des miracles aujourd'hui, il y en a bien qui en font, là. Mais je ne veux pas intervenir là-dessus. Mais ça, c'est des miracles. Prendre un cœur, prendre une personne qui était morte spirituellement, et l'Esprit-Saint, Dieu l'a ravivé. Lui a donné la vie. Si je continue de même, je vais prêcher jusqu'à midi. Alors, Jésus leur répond au verset 19, « Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. » Wow! Vous savez, la réponse du Seigneur Jésus, c'est une déclaration qui est étonnante concernant sa mort et sa résurrection. Et encore une fois, ça prend juste Dieu pour dire quelque chose comme ça. Il leur dit qu'il détruirait son sanctuaire et qu'en trois jours, il le relèverait. Nous, lorsqu'on lit ces paroles-là, probablement que c'est difficile à comprendre parce que temple, sanctuaire. Mais probablement que dans l'hébreu, c'est-à-dire, ça a peut-être eu une connotation peut-être un peu plus humaine. Mais par contre, peu importe, les Juifs n'ont rien compris. Et si seul Dieu pouvait affirmer cela, en trois jours, je le relèverai. Et c'est une réponse qui est étonnante, qui vient du Seigneur Jésus. Et ces Juifs incrédules-là n'avaient rien compris à la réponse de Jésus. Et au lieu d'aller sonder les paroles de l'Écriture des prophètes de l'Ancien Testament, qui ont annoncé la venue de Christ, qui ont annoncé la mort de Christ, ils se moquent de lui. Regardez au verset 20. Les Juifs dirent-ils, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours, tu vas le relever? Quittez! Ils n'avaient rien compris, les Juifs. Ils s'intéressaient beaucoup plus aux choses matérielles qu'aux vérités spirituelles. Et là, le seul temple auquel les Juifs pensaient, c'était vraiment le temple qui était derrière eux, le temple d'Hérode, qui se situait à Jérusalem. Et ils répondirent à Jésus qu'il avait fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Comme si Jésus était un peu naïf. Il ne comprenait pas comment on pourrait reconstruire ce temple en trois jours. Et à première vue, on aurait peut-être tendance à prendre la part des Juifs, hein, parce que la façon dont ils ont interprété les paroles de Jésus, ça aurait pu être aussi des nôtres. Puis je me demande quelle aurait été ma réponse. Comment est-ce que j'aurais réagi? Par contre, comme j'ai dit tantôt, ces Juifs-là avaient seulement une pensée matérialiste. Et en plus, ne croyez pas en Jésus. Et lorsque l'on constate qu'il permettait les vendeurs d'animaux, les changeurs de faire commerce aux portes même du temple, on peut facilement voir que leur côté spirituel, le côté spirituel de leur pensée et de leur vie n'avait aucune importance. Eux autres, c'était le faire valoir, la tromperie, la tricherie. C'était des hypocrites. Des gens religieux, des gens qui aimaient critiquer le côté des autres, mais qui ne regardaient pas dans leur cour. Et là, on a cette réponse-là au verset 21, comme quoi que Jésus parlait du temple de son corps. Une des choses dont il faut faire attention de nos jours, hein? C'est la façon de se faire bien comprendre, surtout lorsqu'on écrit un courriel. Alors, ça m'est arrivé de me planter souvent à cause que tu veux écrire une phrase, tu veux qu'elle ait un certain sens, mais c'est pas ça pantoute. Hein? Même quand on reçoit un courriel, souvent on a de la difficulté à interpréter ce que l'autre personne veut nous dire. Et là, si on manque une virgule, si on manque une exclamation, si la personne ne peut pas comprendre le contexte du courriel, peu importe, ce qu'on écrit peut avoir une toute autre signification pour celui ou celle qui en fait la lecture. Ça m'est arrivé souvent. Donc, il faut être prudent. Il faut faire attention quand on écrit. Puis, le bon vieux téléphone, ça existe encore. Hein? Quand on veut se parler, là, souvent, là, surtout si c'est quelque chose d'important, le téléphone, c'est parfait. Je ne suis pas contre l'innovation puis la technologie, ces choses-là. Ça nous aide beaucoup. Mais souvent, ça cause aussi des problèmes. Donc, le Seigneur Jésus, ici, parlait de son propre corps, qui était, évidemment, le sanctuaire, et dans lequel résidait la plénitude de la Trinité. Alors, tout comme ces Juifs avaient profané le temple de Jérusalem, donc, ils allaient, eux, le mettre à mort dans quelques années. Ils allaient détruire le sanctuaire de Jésus, ce temple-là, le corps de Jésus. Et ces Juifs-là n'ont absolument rien compris. Et au verset 22, si vous regardez dans Jean 2, on dit ceci. « C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, Jésus, on parle, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. » Les disciples n'étaient pas plus vite que les Juifs, mais il y a une chose, c'est qu'ils ont reconnu plus tard les paroles que Jésus venait de dire. Plus tard, après que le Seigneur Jésus lui a été crucifié, après qu'il eut ressuscité des morts, ses disciples se sont souvenus qu'il avait promis de ressusciter en 3 jours. Or, j'imagine qu'au moment même, les disciples, ils n'avaient pas compris tout à fait ce que Jésus venait de dire, mais ils n'ont rien dit. Ils croyaient en Jésus parce qu'ils l'avaient vu faire un gros miracle à Cana. Donc, ce qu'il vient de dire là, c'est peut-être pas faux. Il avait vu d'autres choses dans la vie de Jésus. Puis il y a une autre chose qu'il avait, c'est qu'il l'aimait. Il aimait le Seigneur. Et suite à l'accomplissement si merveilleux de cette prophétie-là, lorsque Jésus est ressuscité, lorsqu'ils l'ont vu avec eux, Seigneur, dans la chambre haute, ils ont cru. Ils ont cru à l'Écriture et à la parole que Jésus leur avait dit. On rencontre souvent des vérités difficiles à comprendre. Lorsqu'on lit la Bible, ce n'est pas toujours évident. Aux inconvertis, évidemment, la parole de Dieu est incompréhensible. Ça prend l'Esprit Saint pour nous ouvrir les yeux. Ça prend, justement, l'intervention du Saint-Esprit qui, lui, nous a redonné la vie, la nouvelle naissance. D'ailleurs, la nouvelle naissance, on va voir bientôt avec Jean 3, on va embarquer cette histoire-là avec Nicodème. Et pour nous, les enfants de Dieu ici ce matin, on apprend ici qu'il nous faut toujours chérir la parole de Dieu dans notre cœur. Ce que le Seigneur Jésus dit dans sa parole, c'est la vérité vraie. C'est ça qui nous réconforte. C'est cette parole-là qui nous donne l'espérance d'une vie meilleure. C'est elle qui nous encourage dans les temps difficiles. Et même si parfois on ne comprend pas maintenant ce que nous sommes en train de lire, le Seigneur nous éclairera en son temps. C'est important de lire la Bible tous les jours. Il y a beaucoup de passages que je lis aujourd'hui que je n'ai peut-être pas compris dans le passé, mais que Dieu me révèle maintenant. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher, là. Il ne faut pas ignorer la parole de Dieu. Il ne faut pas que la Bible, quand on arrive chez nous, reste sur le comptoir, puis elle prie dimanche. Non! Prenons le temps, puis lisons pas, en anglais on dit ça, du cherry picking, mais faisons pas seulement faire des petits bouts de ici et là. Prenons un texte, prenons un évangile, prenons les proverbes, lisons-les les 31 proverbes dans un mois, et un mois de 31 jours, comme je dis souvent, et qu'on prenne, qu'on fasse pas une course, mais qu'on prenne un chapitre, deux chapitres par jour, puis qu'on prenne le temps de lire ce que le Seigneur Jésus veut nous dire. C'est sa façon de nous communiquer ce qu'il a à nous dire. Les disciples ont lu, crurent à l'Écriture, ce qui signifie qu'ils crurent aux prophéties de l'Ancien Testament concernant la résurrection du Messie. Les Juifs avaient tout ça devant eux, mais ils n'ont pas cru. Le deuxième point que je veux avancer, puis je vais le faire rapidement, c'est à partir du verset 23, plusieurs professent la foi en Christ. Et là, on peut lire au verset 23, « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. » Suite aux miracles que Jésus a accomplis à Jérusalem à la fête de Pâques, il y en a plusieurs qui ont cru en son nom. Ça ne veut pas dire qu'ils lui remirent leur vie par la foi. Mais ça veut juste dire qu'ils ont professé seulement, ils ont dit seulement qu'ils l'acceptaient. Et souvent, lorsqu'on fait des appels, il y a plusieurs personnes qui vont juste lever la main, ou on ne fait pas ça ici, mais quand même, qui vont dire qu'ils acceptent le Seigneur Jésus. Mais quand il arrive la première épreuve ou quoi que ce soit, ben, ils sont partis. Ou leur vie ne change pas. Ils vivent la même vie qu'avant. Sauf que le dimanche, des fois, bien à l'église. Leurs actions ne recouvrent aucune réalité. Ils agissent seulement d'une prétention. Ils prétendent suivre Jésus. Et cette attitude-là ressemblait à celle qu'on trouve dans le monde, où il y a tant de gens qui affirment être des chrétiens, sans jamais être nés de nouveau par la foi au Seigneur Jésus-Christ. J'aime ce que l'apôtre Paul dit, si vous voulez bien tourner dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Paul va dire aux Corinthiens ici, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Examinez-vous vous-même. » C'est ce que nous devons faire. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit douter du salut qu'on a, mais on doit s'examiner. Savoir si vraiment je suis dans la foi. C'est-à-dire, est-ce que je marche selon ce que Jésus me demande? Oh, il y a peut-être des petites choses que je n'ai pas encore compris. Ça, c'est correct. Est-ce que 35 ans passés, j'étais le même gars qu'aujourd'hui? Quand j'ai fait profession de foi, 10 ans passés, est-ce que je suis encore la même chose que 10 ans passés? Je vous dis ça ce matin, pas parce que je me mets au-dessus de vous, mais c'est la parole de Dieu, c'est pas moi, là. C'est Paul qui dit aux Corinthiens, « Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. » Et la meilleure manière de savoir, c'est d'avoir des épreuves, de s'éprouver. Pourquoi? Parce que ça serait plate d'arriver au ciel et que le Seigneur dit, « Je ne te connais pas. » Oui, mais je suis allé à l'église toute ma vie. Non, mais c'est pas ça, tu ne me connais pas. Et là, au verset 24, Jésus, il ne se fiait pas, justement, à ces gens-là qui disaient être des disciples, parce qu'il les connaissait tous. Hein? Bien que beaucoup ont cru en lui, Jésus ne croyait pas en eux. Et le même verbe « crure » et « croyait », c'est le même verbe qui a la même signification dans le grec. C'est la même foi, le même « cru ». En d'autres termes, Jésus ne se fiait pas à eux. Jésus se rendait bien compte qu'ils venaient juste par curiosité. Vous savez, Billy Graham, c'est un grand homme qui a fait beaucoup d'évangélisation. Et des fois, lorsqu'il faisait un appel à la fin, il y avait des milliers de personnes qui descendaient pour aller devant. Le lendemain matin, les églises n'étaient pas plus pleines. Pourquoi? Parce que des fois, c'est sur le coup de l'émotion. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire d'appel, il ne faut pas faire ça. Non, il y a des gens qui ont vraiment été sauvés. Il y en a plusieurs qui se sont rendus au pied de l'autel ou au pied de Billy Graham et qu'ils n'avaient pas cru sincèrement dans leur cœur. Ils avaient fait une profession de foi, mais très sommaire. Quand on me dit, moi, fais cette petite prière-là et tu vas être sauvé, j'ai peur. La petite prière est correcte. Ce qu'on oublie de dire souvent, c'est maintenant, marche selon ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Il faut que tu changes. Donc, ces gens-là qui cherchaient quelque chose de sensationnel et de spectaculaire, bien, ils n'étaient pas vraiment des croyants. Jésus les connaissait tous. Jésus te connaît. Jésus me connaît. Il connaît mes pensées. Il connaît le pourquoi je fais ci, le pourquoi je fais ça. Jésus savait pourquoi ces gens-là agissaient de cette manière-là et si leur foi était vraiment une foi réelle ou seulement une imitation. Et au verset 25, « Parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rend témoignage. » Jésus n'a pas besoin de ça. « D'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Jésus nous connaît parfaitement. On ne peut pas rien lui cacher. Vous pouvez me cacher un paquet de choses. On peut se cacher les uns les autres un paquet de choses. On ne peut rien cacher à Jésus. Nul que Jésus connaît mieux le cœur de l'homme. Il connaît ton cœur, il connaît mon cœur, il connaît tout de nous. Dieu et Jésus est omniscient. Il n'y a pas besoin qu'on lui rende témoignage, comme j'ai dit. Il n'y a pas besoin qu'on l'éclaire sur le sujet de sa divinité. Il est Dieu. Il possède une parfaite connaissance de ce qui est dans l'homme et de la raison pour laquelle l'homme se comporte ainsi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est Dieu. Et je conclue ce matin en disant ceci. Comment se porte ta foi ce matin? Es-tu vraiment un croyant né nouveau? Ou bien un croyant qui voit de la tête, là, seulement? Un croyant peut-être curieux, un croyant qui dit « Oh, quand je viens ici, je me sens bien. » Juste écouter ce que je vais dire, c'est pas moi qui va le dire, c'est la parole de Dieu. La Bible dit ceci dans Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Moi le premier. On est tous des pécheurs. On était tous, à un moment donné, des pécheurs non convertis et privés, justement, de la vie éternelle. C'est ça qui était notre état lorsqu'on est né. On est tous des pécheurs. Un peu plus loin, dans Romains 3, 10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a pas personne qui peut dire ici ce matin que c'est un juste. À moins d'être né de nouveau. À moins d'avoir cru parfaitement au salut, au sacrifice parfait de Jésus. Et on est déclaré juste par Christ seulement. Et Dieu, lorsqu'il nous voit arriver, il approuve. Il approuve le sacrifice de Jésus-Christ. Mais devant Dieu, je pourrais plus dire, « Oh, je suis un bon gars. Je suis un bon gars. » Et après, en Romains 6, 23, la parole dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Ah, oh, ben oui, je vais mourir un jour, je sais, mais ce n'est pas juste cette mort-là. C'est la mort spirituelle. C'est l'enfer. Je m'excuse de dire ce mot-là. Non, je ne m'excuse pas. C'est l'enfer. Mais il ne faut pas oublier ce qui est écrit après, par contre. Mais le don gratuit de Dieu, ça ne coûte absolument rien. C'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. En Jésus-Christ qui est Dieu, le Fils, parfaitement. En demandant pardon à Dieu pour tes péchés et par la foi en le sacrifice parfait de Jésus-Christ et ensuite en obéissant à sa parole avec l'aide du Saint-Esprit parce que par nous-mêmes, on ne peut absolument rien faire. Bien, mon ami, on est sauvé parfaitement et on va attendre tous ensemble la vie éternelle en Jésus. On va prier Dieu. Seigneur, si quelqu'un ce matin avait besoin d'entendre la parole de repentance, avait besoin d'avoir une confirmation, Seigneur, que Jésus est ton Fils, que Jésus est Dieu parfaitement. Et qu'en mourant sur la croix et en ressuscitant le troisième jour, nous ayons cette espérance glorieuse de la vie éternelle. Alors, pour tous ceux et celles qui, ici, ce matin, avaient besoin d'entendre la parole de ton salut, Seigneur, qui, en ce moment, peut se poser la question, suis-je vraiment un vrai chrétien né de nouveau, ou si seulement je suis ici parce que je suis bien au bonhomme, parce que je suis curieux. Peu importe la raison. Si, Seigneur, tu peux toucher le cœur de ces gens-là, que tu puisses les amener, Seigneur Dieu, au pied de la croix, et que tu puisses, Seigneur Dieu, les amener à obéir à ta parole. Voilà ma prière. Voilà la prière de tous les saints ici rassemblés ce matin. Et de même, je prie pour nos enfants qui sont en bas parce qu'il y en a peut-être qui ne sont pas sauvés. Je te prie que Serge puisse les conduire lui-même avec ta parole au pied de la croix. Enfin, Seigneur, je veux te remercier pour ce que tu nous dis, ce que tu nous enseignes à chaque jour, à chaque semaine, et que ton nom puisse être glorifié dans le beau et précieux nom de Jésus, je te prie. Amen. Je vais inviter mon frère.
Merci, pasteur. Père Michel, si vous voulez bien avancer pour les offrandes, s'il vous plaît.
Guide-nous au bois, Seigneur Dieu. Nous aide à comprendre ta parole, Seigneur Dieu, et à la mettre en pratique.